Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un tout petit instant, on passe en revue les nouveautés à l'affiche au cinéma avec Stéphane Boutsock. Très joli cadeau au 32-10. Nous vous offrons des places pour assister à la cérémonie des Césars le vendredi 2 mars, salle Pleyel à Paris. Grand Corps Malade est de retour, son nouvel album Plan B sort vendredi. Il nous le présentera en avant-première au micro de Steven Bellery. Le Salon des artistes français ouvre ses portes, lui, aujourd'hui à Paris, parmi les nouveaux talents qui exposent IMAS, j'espère qu'on prononce comme ça, un nom de scène derrière lequel se cache un grand champion du sport français. Notre journaliste Isabelle Langer a enquêté, l'a rencontré et elle nous donnera quelques indices pour aider à l'identifier. Nous n'oublierons pas nos express préparés par Olivier Lera. Olivier, vous avez le refait. Olivier Lera, mon Dieu, je me suis piégé moi-même. Olivia Loret. Olivia Loret, c'est plus joli, oui. Et puis à la télé ce soir, retour de la série Les Bovitz contre les Bovitz sur France 2 à 21h avec Clémentine Sélarié. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bon, et si nous commencions par une séance au cinéma? Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Vous allez dans un instant nous parler de quelques-unes des 13 nouveautés à l'affiche. Mais tout d'abord, on fait bien entendu le point sur notre box-office pour constater la marche triomphale des Tuches 3.
Ouais, d'après nos amis du site cbo.fr, on est même dans le registre d'un vrai phénomène. Près de 3,5 millions d'entrées en 15 jours, baisse de moitié à peine en deuxième semaine. La barre des 5 millions sera très largement dépassée. Le film d'Olivier Barou peut même lorgner au-delà des 6 millions maintenant. Puisque nous sommes en jour de Saint-Valentin, je vous signale aussi que 50 nuance plus claire a émoustillé près d'1,2 million amoureux branchés fouet et six sauteuses. Le Labyrinthe 3 démarre autour des 750 000. En fait, la contre-performance, elle est pour le dernier Clint Eastwood. Le 15h17 pour Paris a intéressé moins de 200 000 personnes, c'est-à-dire à peine plus que le film d'animation Croman. Enfin, Jusqu'à la garde, je vous en parlais la semaine passée. Intense et terrible film sur les violences conjugales avec Léa Drucker et Denis Ménochet a intéressé près de 120 000 spectateurs, ce qui, pour ce genre de film, est un très joli score.
Place donc aux sorties de ce 14 février, vous le disiez. C'est la Saint-Valentin, une idée de film à aller voir en amoureux?
Bah oui, le retour du héros de Laurent Tirard avec le couple Mélanie Laurent et Jean Dujardin. Ils étaient nos invités jeudi dernier. Formidable comédie romantique et historique en costume. Histoire façon duo-duel entre une bourgeoise émancipée et un hussard napoléonien bonimenteur. C'est vif, c'est drôle, remarquablement écrit, très joliment filmé et joué par deux comédiens qui s'amusent autant que nous. Un extrait, Elisabeth Beaugrand, jouée par Mélanie Laurent, assiste impuissante au retour du capitaine Neuville, Jean Dujardin, l'escroc fiancé de sa sœur, supposé mort au combat et en fait déserteur.
Nous avions un accord, vous deviez partir.
Et je suis parti.
Vous êtes revenu?
Non, Elisabeth. L'ancien Neuville est bel et bien parti. L'homme qui vous parle maintenant est le nouveau Neuville.
Vous êtes fou, c'est ça? Vous avez perdu la raison?
Au contraire, je l'ai retrouvé, grâce à vous.
C'est-à-dire?
Nous sommes ce que le monde fait de nous. On me traite en vagabond. Je suis un vagabond. On me fait la grâce de m'accueillir. Je suis aimable et bien peigné.
Je comprends rien à ce que vous dites.
C'est pourtant simple, Elisabeth. Ailleurs, je ne suis rien. Ici, je suis le capitaine de ville.
J'espère vraiment que vous aurez envie d'aller voir ce retour du héros film épatant qui renoue avec cette belle tradition du cinéma français cher. Alors, on va remonter le temps au André Unebelle, à Jean-Paul Rapneau, à Patrice Lecomte, mais avec une vraie modernité dans le propos et la mise en scène. Au rayon des sentiments, tiens, j'ai aussi en magasin Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, cinéaste assez surcoté à mon goût. Autrefois passionnant, on se rappelle de films comme Magnolia ou Boogie Nights, mais depuis quelques temps, ce garçon se regarde filmer. Ah bah, c'est de nouveau le cas avec ce drame amoureux qui se passe dans les années 50 entre un couturier et sa muse, une serveuse, étude sociale et sentimentale qui ne dégage malheureusement jamais la passion qu'elle devrait nous procurer, avec un Daniel Day-Lewis qui surjoue le moindre clignement d'œil ou retroussement de babine.
C'est drôle.
Oui, Phantom Thread. Donc
parce
ça
que jusqu'ici, il faisait sobre. Donc
oui, bah oui, mais un petit peu moins. C'est son dernier film, paraît-il. Oui.
Ah bah voilà.
Profitons-en. Je vous rappelle aussi la sortie de L'Apparition, très impressionnant film de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, en journaliste chargé par le Vatican d'enquêter sur une jeune fille qui affirme avoir reçu un message de la Vierge Marie. Il parle avec passion de la foi, du mystère et du mensonge. C'est un des premiers très grands films de cette année.
C'est un film absolument passionnant. Les vacances de février ont commencé, donc j'imagine que vous avez quelques films destinés à un public plus jeune.
Oh oui, et la très grosse sortie de la semaine, c'est Black Panther, le premier Marvel à mettre en vedette un super-héros afro-américain. T'Challa, le roi du Wakanda, c'est un mystérieux pays imaginaire d'Afrique, dispose en fait d'une technologie très avancée, cachée du reste reste du monde jusqu'au jour où un complot chasse le souverain de son trône et l'oblige à se révéler. Alors, je suis un petit peu moins enthousiaste que la plupart de mes camarades, mais alors j'aime beaucoup le propos du film qui rend hommage à la culture et aux racines du peuple noir. J'aime beaucoup son faux rythme qui tranche avec celui généralement survolté des récentes productions Marvel. Je regrette un petit manque de charisme du héros interprété par Chadwick Boseman, cet acteur qu'on avait découvert dans le rôle de James Brown dans le film Get On Up. Et je lui préfère franchement la présence de Michael B. Jordan, le méchant de l'histoire, qu'on avait découvert lui dans Creed, l'héritage de Rocky Balboa, film réalisé par Ryan Coogler, le réalisateur justement de Black Panther.
Je suis très excité par le fait que le public le voit. Je me suis lancé dans ce film avec l'idée de poser cette question. Ça veut dire quoi, être africain? Moi-même, j'avais 30 ans quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, et alors je n'étais pas bien sûr de la réponse, même si je suis d'origine africaine. Je pense que le fait de tourner ce film m'a donné la solution. Un Africain est d'abord un être humain, et malgré les spécificités que cela implique, c'est partager des choses universelles. Ceux qui verront Black Panther s'y reconnaîtront. Ils verront leur pays, leur famille, et j'espère que ça renforcera notre connexion à tous.
Ryan Coogler, metteur en scène de Black Panther, à découvrir donc au cinéma ce mercredi. Après La Panthère, Le Gros Chien Blanc, ce 14 février, c'est aussi le retour dans nos salles de Belle et Sébastien, troisième volet au cinéma de l'œuvre de Cécile Aubry, troisième épisode réalisé, tiens, par Clovis Cornillac, qui s'est aussi réservé le rôle du méchant, un homme qui vient exiger la propriété de Belle et de ses chiots, mais si, il ose, forçant Sébastien à grandir un peu plus vite que prévu. C'est un très bel ouvrage familial avec de bons sentiments, simples, humanistes, de sublimes paysages enneigés et des animaux totalement craquants. J'ai demandé à Clovis Cornillac ce qui avait été le plus difficile à gérer.
Je dirais les chiots, parce que c'est pas dressable vraiment, donc c'est du temps. Les chiots, ils arrivent tous les 15 jours, et tous les 15 jours, c'est une portée. Et tu te dis, il faut réussir à faire des choses quand même avec. Et on y arrivait. C'est des moments où toi, t'es aussi responsable de ton plateau et tu dis maintenant plus un bruit, personne ne bouge. Voilà. Et si ça prend 3 heures, ça prendra 3 heures parce que j'ai besoin de ces 2 secondes. J'ai besoin d'un moment de ça et pas de ça. Et puis la neige, parce que la neige, c'est un décor fabuleux, mais que t'abîmes dès que tu marches. C'est une galère à tourner, au-delà du froid et tout ça, mais qui est, ça, je dirais, c'est presque anecdotique. Mais ça, il faut bien penser ta journée pour que tu ne sois pas au bout d'une demi-heure de tournage avec un décor saccagé parce que tout le monde a marché, parce que les chiens ont couru, parce que la neige, c'est un cauchemar pour ça. C'est magnifique, mais c'est un gros boulot.
Et donc, les petits toutous, ça n'a pas l'air de rigoler. Bah,
entre les chiots et la neige, mais ils s'en tirent très bien. Clovis Cornillac, réalisateur et acteur de Belle et Sébastien 3. Le dernier chapitre avec aussi Félix Bossuet, c'est-à-dire le petit garçon qu'on suit depuis le début, c'est le même, il n'a pas changé. Et notamment Tchéky Cario.
Il n'a pas grandi
Si, il a grandi. Il a un petit peu de poil aux pattes. Il a 14 ans, quoi, voilà. Enfin, deux films d'animation pour les plus petits. Le russe La Princesse des Glaces, cette saison. Et le tchèque L'Étrange Forêt de Berthe et Joséphine.
Alors, je vous rappelle que nous vous offrons ce matin un magnifique cadeau, des places pour assister en VIP, VIP en français, à la 43e cérémonie des Césars. Ce sera le vendredi 2 mars, salle Pleyel à Paris. RTL est le partenaire de Canal+, pour cette grande soirée du cinéma, et vous serez dans la salle, à condition évidemment de répondre à la question que vous pose Stéphane.
Quelle actrice disparue prête cette année son visage à l'affiche de cette 43e cérémonie des Césars?
Réfléchissez bien, réponse au 32-10 et on se retrouve à la fin de l'émission pour savoir si vous avez gagné. Mais tout de suite, les audiences télévisées avec Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
Eh bien, Gone, la série de TF1 américaine est en tête, mais toujours un faible score. 4 030 000 téléspectateurs et 17% du public sur la une. Et alors, ensuite, égalité presque parfaite entre deux bons scores. La fabuleuse histoire du restaurant de Stéphane Bern sur la 2 et Belle et Sébastien, le premier de Nicolas Vanier sur la 6. Dans les deux cas, 3 300 000 téléspectateurs quasiment et 14% du public sur chacune des deux chaînes, c'est très bien. Et puis côté TNT, alors de nouveau, j'ajuste mes yeux. Alors j'ai un 700 000 téléspectateurs. Ah bah Fast and Furious 2.
Ils les passent tous en fait.
Ils les passent tous.
Non, il y en a 15.
Ils les rediffusent sur TFX.
Voilà. C'est perturbant. Pour Isabelle comme pour moi. Dans quelques instants, l'actualité musicale avec GCM, Grand Corps Malade.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Comme nous aimons l'hygiène, on va balayer l'actualité musicale de la semaine. Stéphane Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
On commence par la sortie vendredi prochain de Plan B, le nouvel album de Grand Corps Malade.
Pour qui la musique a été un joli Plan B depuis 12 ans, Grand Corps Malade, slam avec talent, sera parlé, découpé, très écrit. Fabien Marceau à l'état civil livre ici 15 morceaux, tous réussis, assurément son meilleur disque, poétique, dense et mélancolique. Voici la chanson Plan B.
Quand pour ton sixième album, tu veux sortir en indé, pour la thune et pour la com, il faut trouver des plans B. Quand tu fais 1m60 et que tu veux jouer en NBA, peut-être que ça se tente, mais prévois quand même un plan B. Quand tu veux de belles vacances, mais qu'en juin t'as tout flambé, tu vas squatter l'île de France et tu vas chercher un plan B. Quand tu veux être homme politique, mais tu sais dire que la vérité, ça va pas être très pratique, mieux vaut trouver un plan B. Quand tu rêves d'une carrière sportive, mais que t'es déjà en senior. Quand tu veux créer ton site d'info en Corée du Nord. Quand tu veux être président, mais que tu n'aimes pas les coups bas. Quand tu veux avoir de la classe, mais que tu fais de la Zumba. Quand t'es noir et musulman et que tu veux habiter Béziers. Quand dans un discours de Ménard, tu cherches de l'humanité. Quand t'es docteur dans ton pays et qu'en France t'es un clan. C'est à l'échelle de ta vie que tu dois passer au plan B.
Grand Corps Malade marie son slam à des arrangements sud-américains et s'aventure pour la première fois sur le terrain du chant.
Alors ce chant, il est vraiment né sur scène, sur la tournée précédente. Je reprenais une chanson de Renaud, La Médaille, où je slamais les deux premiers couplets et je m'amusais à chantonner un peu le troisième couplet. Et puis après j'ai fait ce duo avec Véronique Sanson. Et du coup, cette envie de chanter, c'est pas un truc marketing de studio, quoi. C'est né sur scène et je pense que c'est là où se passe le plus de vérité, quoi. Du coup, voilà, ça m'a donné envie et je me dis, tiens, ça permet aussi de faire des choses un peu différentes, d'avoir cette mélodie dans le phrasé, dans la voix. Peut-être que le public va reprendre des choses en cœur. Il y a quelques années, j'aurais pas osé. Et puis ça se passe plutôt bien. Alors attention, je ne fais pas des effets de voix monumentaux, je veux que ça me ressemble, je veux que ça reste dans ma tonalité, dans ma tessiture, mais c'est quand même une vraie différence, une vraie nouveauté.
Tu peux déjà, et tu pourras compter sur moi, et sur tes doigts. Tu peux déjà, et tu pourras chanter celle-là. Elle est pour toi.
Chanson pour son deuxième fils. L'artiste de 40 ans évoque au fil du disque sa passion des villes, sa mère, l'amour qui dure et ses souvenirs d'enfance qui forment des acouphènes.
J'entends ma sœur dans sa chambre qui écoutait les Cure. J'entends nos cris d'enfants quand on sortait dans la cour. J'entends la sonnerie du collège qui annonce la fin de l'heure. J'entends toujours beaucoup plus de fou rire que de pleurs. J'entends les portes du métro et la cohue de la ligne 13. J'entends l'accent des clandos qui vendent des frites merguez. J'entends les piliers de bar qui philosophent et théorisent. J'entends le clocher de la mairie qui sonne le temps des cerises. Est-ce que c'est grave, docteur, tous ces bruits dans mon esprit? Est-ce un trop plein de souvenirs et mon cerveau qui réagit? Est-ce que ça doit me faire peur? En fait, je pense que j'ai compris. Tous ces murmures, c'est juste des acouphènes de nostalgie.
Plan B, le nouvel album de Grand Corps Malade, sort vendredi. Il est déjà en tournée. Il sera à Maubeuge le 22 février, à Issy-les-Moulineaux le 6 mars, à Marseille le 23 mai et Salle Pleyel à Paris les 6 et 7 décembre.
Dans l'actualité également, la chanteuse Pomme, elle défendra son premier disque intitulé « À peu près », demain et vendredi au Café de la Danse à Paris. Et c'est l'un de vos coups de cœur, Steven.
Oui, Pomme a 21 ans, une plume et une voix d'une maturité étonnante. J'adore sa collection de 13 chansons parues en octobre dernier. Une écriture ciselée, fragile et candide et une voix qui me bouleverse, un grain sublime, une élasticité qui lui permet de jongler avec les graves et les aigus. Exemple avec « Même robe qu'hier ».
Que tu nous vois déjà loin, tu parles de nous dans longtemps. Dis, même si t'en sais rien, j'ai jamais connu plus convaincant. Tu dis, quand tu parles à mon âme, c'est mon corps qui te répond. Encore du charme, encore le charme, on chante, on chante, chaque phrase c'est un canon.
Pomme, originaire de Lyon, a façonné ses chansons au fil de ses concerts dans les bouchons de la capitale des Gaules.
J'ai fait pas mal de caves et on faisait des entrées à 2 euros et on se partageait la scène avec 2-3 groupes du lycée. Et donc j'ai fait ça beaucoup dans le vieux Lyon. Mais ouais, c'était ma formation, ça a été ça. Ça a vraiment été les bars. En fait, j'ai toujours écrit des petits poèmes. Et je me souviens, une de mes premières chansons, c'était en 2004. Donc j'avais 2004, 8 ans. Et mon lapin est mort, Poppins est décédé. Et à 8 ans, j'ai pris le piano et j'ai écrit une chanson sur mon lapin. Mais c'était des petits poèmes, quoi, avec 2 notes. Et j'ai toujours eu ce truc-là.
Oh, boy, j'ai pas ta poitrine. Mais mon cœur bat pour lui, ne me fais pas ça. Oh, boy, moulé dans ton jean. Tu sais que je ne peux pas lutter contre ça.
La pratique des instruments, d'abord le violoncelle. J'ai fait de la chorale pendant 10 ans, donc j'étais entourée par des chanteurs, des musiciens, et bien que mes parents ne soient pas du tout dans ce milieu-là. Et donc, assez naturellement, de mes petits poèmes et mes petites histoires se sont transformés en des chansons. Et puis surtout, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, parce que c'était vraiment le moyen le plus simple de composer.
Pour la première fois, je vois pleurer un garçon.
charmant tout ça. Hein. L'originalité de Pomme, c'est aussi le contre-pied, m'avez-vous dit, Steven.
Eh oui, elle soigne particulièrement l'angle de ses chansons pour parler d'amour. Elle utilise la jalousie où compare un garçon à une ville, commande son propre enterrement pour évoquer sa peur de la mort. Le tout dans une ambiance acidulée, éthérée, pop-folk. Pomme le concède. Elle a beaucoup écouté de country.
Toute mon adolescence, je jurais que par ça, je lisais des livres sur l'histoire de la country. Du coup, je revenais aux années 20 et 30 où avant, c'était en fait le yodel des montagnes. Enfin bon, j'ai été obsédée par ça et par toutes les chanteuses de ces époques-là, Dolly Parton. J'en ai un peu abusé et donc ensuite j'ai voulu m'ouvrir un peu à d'autres choses et aujourd'hui j'écoute vraiment plein de trucs. Mais les choses qui restent toujours, c'est Barbara, John Baez. Et puis je suis hyper curieuse en fait d'entendre ce que font les gens de ma génération aussi, parce qu'en fait je me sens un peu à contre-courant avec les gens de mon âge. Moi c'est vrai que je fais une musique qui est très organique et acoustique et j'ai exploré un peu ma voix. Je réalise que la plus belle manière d'utiliser ma voix, c'est le plus simple, comme si je parlais mais avec des notes.
Quelques coups et quelques caresses, je casse mes cordes, je ronge mes laisses et je m'enfuis. Grandir, c'est décevoir un peu, il faut s'appliquer si l'on veut rater sa vie, comme s'il y croyait.
Le formidable premier album de Pomme s'appelle À peu près. Il est disponible. Pomme est en tournée. C'est complet cette semaine à Paris, mais elle chante ce soir à Metz le 23 mars, à Léognan le 28 avril au Printemps de Bourges, et elle revient à Paris le 20 juin. Ce sera à La Cigale.
Comme si j'y croyais.
Ce journal musical était signé Steven Bellery. Elle a des influences amusantes. Hein. Barbara et John Baez, pourquoi pas.
J'adore, elle s'appelle Pomme.
Elle s'appelle Pomme et on était très heureux de la découvrir avec vous dans un instant. Olivia Leray et nos Express.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Nos Express préparés par Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous.
Paris aura le premier rôle dans une future série Netflix.
8 épisodes réalisés par Noémie Saglio. On lui doit notamment Connasse, Princesse des Cœurs avec Camille Cotin ou encore Toute première fois. La série, ça sera une comédie romantique qui racontera l'histoire d'Elsa et de ses copines, des trentenaires en quête d'amour à Paris donc. C'est la maire de la capitale, Anne Hidalgo, qui a fait cette confidence sur son compte Twitter.
Un lieu entièrement dédié à l'œuvre d'Alberto Giacometti ouvrira ses portes le 20 juin prochain dans le quartier de Montparnasse à Paris.
Quartier dans lequel l'artiste a vécu et travaillé toute sa carrière, accessible seulement sur rendez-vous, l'Institut Giacometti présentera en permanence une reconstitution de l'atelier du sculpteur. Tout a été gardé par sa veuve, Annette. Exposition d'œuvres en terre et en plâtre, de dessins, de carnets qui, pour certains, n'ont jamais été montrés au public.
Que donne cette semaine le palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine Express ?
Alors, dans l'ordre, L'Enfant perdu, le quatrième et dernier tome de L'Amie prodigieuse, la saga napolitaine d'Elena Ferrante, Couleur de l'incendie de Pierre Lemaître, et Moi, je vis toujours de Jean d'Ormesson et Les loyautés de Delphine de Vigan. A noter l'accession à la 5e place dès sa première semaine de parution du nouveau roman de Jean Tellet, Entrée dans la danse.
Ce palmarès complet est à découvrir comme chaque semaine dans les colonnes de l'Express. Alors une pétition veut priver Orelsan des prix qu'il a reçus au 33e Victoire de la musique.
Il y en a pour du temps à
passer.
Trois trophées au total, dont celui de l'artiste masculin de l'année. L'appel est lancé sur change.org. Et cet appel juge sexiste et misogyne les paroles de certains des titres d'Orelsan, notamment son titre Saint-Valentin. 15 000 signatures ont déjà été recueillies.
Précisons quand même que Orelsan joue des personnages dans ses chansons.
Ça sert à rien d'être raciste, simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes, basique.
Un nouvel album d'Henri Dez dans les bacs, mais attention, ne comptez pas dessus pour endormir vos enfants, visiblement.
Bah oui, mais imaginez deux secondes, Georges Brassens accompagné par les Sex Pistols ou encore Charles Trenet avec Metallica.
Ben
voilà, Henri Dez et les grands gamins, c'est à peu près ça. À 76 ans, le père de la chanson pour enfants s'embarque dans une drôle d'aventure aux côtés du groupe de son fils, Pierrick, et voilà ce que ça donne.
C'est la petite Charlotte. C'est la petite Charlotte. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau.
J'en ai pas, débrouille-toi comme ça.
J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau.
J'en ai pas, débrouille-toi comme ça.
Pam pam pam.
Je vous avais prévenu.
Je pense que c'est drôle, c'est formidable.
Ah, Henri Dess et The Grand Gamin, donc sorti du CD vendredi. Le prix autour de 14 euros. 13 chansons revisitées, alors vous l'avez entendu. De la machine au ballon, passant par le beau tambour ou encore l'escargot.
Déjà en playlist chez Zégut.
Ah, bon, écoutez, c'est extra. Alors Henri Dess, je l'ai toujours trouvé sympathique, mais je ne pensais pas qu'il arriverait à me surprendre comme ça un jour. Allez, on passe au salon des artistes français qui s'ouvre aujourd'hui sous la prestigieuse verrière du Grand Palais. C'est Isabelle Langer. Bonjour Isabelle, qui va nous en parler. Mais que faites-vous là? Il ne s'agit pas pas de sport, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ?
Mais bah si, pourquoi pas ? Ce salon créé par Louis XIV en 1667, imaginez-vous, et qui a révélé de nombreux talents tels que Cézanne, Delacroix, Manet ou encore Camille Claudel, accueille cette année 650 artistes, dont Imas.
C'est qui ?
Ce n'est pas un artiste à plein temps, c'est un sportif de haut niveau, mais de très très haut niveau, hein, vraiment. Il a tout gagné dans sa carrière, il a notamment été champion olympique en 2012, champion du monde et d'Europe.
Bon alors son nom, allez, allons-y.
Eh ben je vous le dirai pas.
C'est gentil d'être venu.
Karimas veut garder l'anonymat. Même dans son sport, tout le monde n'est pas au courant. S'il ne veut pas révéler son identité, c'est pour une bonne raison.
Dans le milieu de l'art, un sportif ne peut pas être artiste. Donc du coup, j'avais un peur de cet a priori-là. Donc j'ai voulu tout simplement garder l'anonymat dès le début, aussi donner plus de chance en fait, à mon travail, pas faire profiter la notoriété de sportif à l'artiste, tu vois, alors que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc j'avais vraiment voulu préserver ça, pas tout mélanger. Si mon travail plaît, j'aimerais qu'il plaît parce que pour ce qu'il est vraiment et pas pour qui l'a réalisé.
Il faisait la natation ?
Non.
Bon, alors, qu'est-ce qu'il expose au Grand Palais ?
Un tableau que vous ne pouvez pas louper, de 2 mètres sur 1,60 mètres, en hommage au désespéré de Courbet. Vous savez, c'est son l'autoportrait du peintre. Ouais. Alors, si ce n'est qu'Imas n'a pas utilisé de pinceau, il l'a entièrement réalisé en Lego.
C'est bluffant. Hein.
D'après
c'est
vous, il y a combien de pièces ?
Je suis incapable de voir.
Des milliers.
Ouais. Non, c'est inouï, on dirait une réplique totale.
15 000.
10 000.
Allez, on écoute la réponse.
Plus de 14 000 pièces.
Oula,
ça en fait.
C'est incroyable.
Vous imaginez 14 000 pièces, bah, il a fallu les assembler.
Là, par exemple, pour ce tableau-là, on a pris 2 semaines et demie au montage seulement. Alors que la conception du, entre guillemets, le plan de montage, ça a duré plus de 2 mois parce que ça se fait jamais en une traite. Je fais 3 heures par jour, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et à la fin, ça donne ça, quoi.
Hyperactif, Imas fait plein de choses hein, et continue notamment sa carrière de sportif de haut niveau à côté. Exposé au Grand Palais, bah, pour lui, c'est un privilège.
C'est vrai que pour l'instant, je suis resté beaucoup dans l'ombre. Je n'ai pas cherché à démarcher beaucoup de galeries ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion de se faire connaître. Je suis vraiment content que le Salon des artistes ait sélectionné mon œuvre et que je puisse exposer ici. C'est un grand honneur qui, j'espère, m'ouvrira quelques portes. Puis si ça ne se fait pas, au moins, j'aurai eu ce plaisir-là.
Alors un autre tableau en Lego, celui du logo des JO 2024, trône dans le bureau de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et comme le rêve d'Imas, c'est un jour de faire du street art, mais que c'est compliqué car c'est interdit de peindre sur les murs, ben on se dit qu'il serait, en revanche, totalement légitime pour exercer son talent sur la façade d'un stade ou d'une salle qui accueillera l'une des épreuves olympiques.
Merci beaucoup Isabelle Langer. En fait, il est malin parce qu'on parle encore plus de lui.
Mais oui,
parce
mais
qu'on
ne
sait pas qui il est. Donc, l'enquête est lancée et en tout cas, le travail est tout à fait étonnant.
Il a un super compte Instagram. Je suis
C'est top ce qu'il fait.
Il est très
beau. J'adore ce tableau de Courbet, c'est bluffant. Hein,
Vous restez avec nous
pour parler télévision. On signale d'abord le 3e épisode de Top Chef sur
M6. Oui, vous savez que toute l'équipe se délocalise ce soir en Haute-Savoie. Ils vont voir Marc Vera et pour Marc Vera, les candidats vont cuisiner végétal qui verra forcément 21h M6.
Alors l'événement télé, c'est le retour de la série Leibovitz contre Leibovitz sur la 2.
Oui, avec Clémentine Célarier, un Paul Leibovitz, une grande avocate qui a créé un cabinet avec son ex-mari, brutalement décédé après une attaque, c'est un avocat mûr. Or, il s'était remarié avec Irène, Caroline Anglade, à qui il a légué sa société et, vous m'avez comprise, les deux femmes bien sûr doivent cohabiter dans un contexte d'autant plus difficile que le troisième associé, Michel Jonas, a légèrement emprunté du liquide dans la caisse et que la jeune Madame Leibovitz, enceinte des œuvres de feu son mari, a dû accoucher dans le parloir d'une prison. Fin de la saison 1. Dans la 2, elle doit traîner le nourrisson partout, faute de nounou, y compris dans un parloir.
Je vais prendre le bébé.
Allez.
Posez le sac là, s'il vous plaît.
Vous avez vu, c'est incroyable.
Quoi ?
Il a arrêté de pleurer.
C'est normal, il est né en cellule. La prison, c'est un peu sa deuxième maison. C'est pas compliqué, soit on en prend un repris de justice, soit un avocat.
Voilà. La première saison, un succès mérité parce que c'est drôle et profond, avait comme d'habitude été créé il y a 2 ans. Et comme il n'y a que 6 épisodes, c'est toujours compliqué pour la fidélisation. J'ai fait remarquer à Caroline Anglade et Clémentine Célarier qu'on avait failli attendre. Hein.
Non mais déjà on a de la chance qu'on ait une saison 2 quand même, parce que c'est super, ça le mérite, parce que c'est une putain de série quoi. On a un gros problème, toutes les deux, je viens de penser à ça, c'est qu'on s'aime énormément, Caroline et moi. Non mais c'est vrai qu'on s'aime beaucoup beaucoup, mais vraiment, donc c'est ça qui fait qu'on est des vrais ennemis, parce que quand on s'aime, je pense qu'on peut encore plus incarner des ennemis, vous voyez, il y a une confiance quoi, et donc on peut s'amuser comme des folles, et c'est génial d'avoir une copine comme ça, qu'on se fait sur un tournage, on se voit jamais entre, parce qu'on travaille beaucoup, énormément.
On n'a pas le temps.
Non, mais Caroline, donc, on a eu un enfant. Vous vous rendez compte qu'elle était enceinte dans la première saison de mon ex-mari. En fait, elle était vraiment enceinte. Enfin voilà, donc voilà. J'ai fini de parler, c'était à elle.
Je rebondis sur le fait qu'on s'aime vraiment bien dans la vie. On a une énergie qui se marie bien. Et moi, j'adore la suivre dans sa folie drôle. Donc voilà.
Donc voilà. Et dans leur cabinet, elles défendent beaucoup de femmes battues et harcelées, bien avant Balance ton port. Justement, est-ce qu'on verra un jour des épisodes sur ce thème d'actualité dans la série ?
En tout cas, je suis pas du tout pour traiter ce sujet qui me rase. Ça voilà. Va, c'est pour le buzz, machin. Ça, non, voilà. La séduction, de toute façon, ça fait partie de notre métier. On le sait. C'est compliqué.
Non, après, c'est bien qu'on en ait parlé, que certaines choses explosent et certaines choses se disent. Après, c'est tellement délicat, ce sujet, ce débat.
C'est quoi la limite, la frontière?
Peut-être qu'ils voudront l'aborder sur une histoire.
Et donc, si jamais troisième saison il y avait...
Oui, je serais partante, oui. Oui, absolument.
Ah ben, si Clem est partante, moi je la suis au bout du monde.
Ça que toutes les deux. Pas dit encore. En fait, on terminera ensemble. En fait, ce serait une histoire.
Nous, on aimerait imposer ça.
Voilà, elles sont ensemble, elles s'aiment, et voilà.
Et pour finir, qu'est-ce qu'elles pensent de leur partenaire, Michel Jonas?
Il y a quand même un Jonas au milieu de tout ça.
Vraiment, on l'aime pas du tout, insupportable. Aucun talent, vraiment désagréable.
Ah oui, et puis en fait, il chante mal.
Oh,
il chante mal, sur...
C'est pas lui qui chante, en fait, c'est quelqu'un lui. D'autre. Non, c'est un bonbon.
Il est drôle, il est humain, il est spirituel. Il est très amoureux de moi. Non, il aime les femmes.
Complètement. Non. Moi, il m'aime comme vieille amie, le côté copine et tout ça horrible. Il aime beaucoup Caroline.
C'est quelqu'un de génial, très agréable dans la vie et dans le jeu. Il a ce côté un peu loufoque et décalé. Il est super.
Merveilleux,
mais c'est pas lui qui chante.
Ça, c'est le générique de la série que j'aime beaucoup.
On a passé un bon moment.
Elles sont très...
On va se retrouver dans quelques instants. On va faire un très beau cadeau.
Pour les Césars.
Des places pour les Césars et on accueillera Julien Courbet. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Elle avait des bagues à chaque doigt.
Des tonnes de bracelets autour des poignets. Et puis elle a tête.
Mais vous chantez parfaitement bien toutes les deux.
J'adore cette chanson.
Olivia Leray, Isabelle Morelli-Bos.
Chorale tous les dimanches.
Bon, alors, l'actrice disparue cette année, dont le visage orne l'affiche de la 43e cérémonie des Césars, était donc Stéphane
Jeanne Moreau. Et Vanessa Paradis ouvrira la cérémonie.
Et en nous ayant appelé au 3210, eh bien, vous aurez gagné donc des invitations pour aller à cette soirée exceptionnelle du cinéma français avec Canal+ et RTL. Merci à toute l'équipe. Bonjour Julien.
Comment allez-vous ?
Fort bien.
Préparez bien la Saint-Valentin ?
C'est-à-dire que je prépare le match de foot.
Oh bon.
Je vais pas faire semblant.
Prépare-lui une lettre au moins.
Avec un petit plateau.
Ma chérie, sache que ce soir, pour tous les deux...
C'est un match très important pour le Real Madrid.
On va croire que vous lui parlez d'amour et vous enchaînez tout de suite.
C'est
bon ça. Mais oui, en face à face.
Ah bonjour, merci.
Mais voilà, je donne des trucs moi. Moi, je suis bon camarade.
Car il est bon camarade.
Je te fais un petit bisou quand même à la mi-temps.
Oui.
C'est la moindre des choses.
Oui, enfin bon, on verra.
Ça dépend du score. Il y a quand même des variables d'ajustement.
Bonne journée.
Bon, ben voilà, on a été délicat et élégant comme d'habitude.
Comme d'habitude. Gentlemen, Jean-Pierre Laclasse.
Vous écoutez RTL.